بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حياكم الله أيها الأحبة. Heureux de vous retrouver aujourd'hui, le dimanche, le 7 du mois de l'Hijja, de l'année 1446 de l'Hégire, correspondant au 24 mai 2026. Nous nous retrouvons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala afin de poursuivre ensemble notre lecture de ce livre très profitable et très bénéfique de Cheikh al-Allama Hafid al-Hakami, qu'Allah lui fasse miséricorde, intitulé « A'lam al-Sunnati al-Manshura » dans lequel il a rédigé un petit peu plus de 200 questions au sujet de la croyance authentique, la croyance de Ahl-Sunnah wal-Jama'a, auquel il a donné des réponses d'une manière simplifiée. Taïb, on s'est rendu à la 127e question de ce livre, dans laquelle il a dit « Ma dalilul hawdi min al-kitab » « Quelle est la preuve du bassin » Al-hawd, c'est ce qu'ils appellent le bassin du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car comme vous savez, les preuves, principalement, ce sont les preuves de le Qur'an et de la sunna authentique. Mais ce ne sont pas les seules preuves. Qui peut me citer une autre preuve? Tfadali akhi Abdullah ou Muslim. Ou kila ou ma'an.
Vous pouvez répéter la question, s'il vous plaît.
Le frère qui est dans le premier rang avec le kamis blanc, comment tu t'appelles, Akhi?
Jadid.
Mashallah. Allahumma barik. Ça me rappelle, Allahumma barik, les prénoms des Indonésiens. Les Indonésiens, Allahumma barik, ils ont des prénoms exceptionnels. Je ne pense pas qu'il y en a deux en Indonésie, malgré que c'est plus de 200 millions de personnes. Je ne pense pas qu'il y en a deux qui ont les mêmes prénoms. Je connaissais un frère qui était à l'époque chez Cheikh Zayed, rahimahullah, qui s'appelait Khairul Umam. Khairul Umam. Taïb, tfadali, akhi jadid.
Aqliya.
Hein? Aqliya. Aqliya. أدلة عقلية. تفضل يا ما اسمك؟ ذكرني باسمك بارك الله فيك. Rappelle-moi ton prénom. الأخ du Comar. نعم.
عبد الله.
عبد الله. تفضل يا عبد الله. يا عبد الله.
Le consensus des salaf.
Le consensus. أحسنت. هو le consensus des hommes de science. نعم. Ahsant, ça c'est le troisième argument. Le quatrième, tfaddal ya Abdullah kadhalik. Tfaddal. L'adilla al-kawniya. Non, on parle des arguments dans la religion. On peut s'appuyer sur des arguments rationnels, des arguments comme tu as dit. Tfaddal ya Muslim. Masmouk
Ahmed.
Ahmed.
Al-Qiyas sahih.
Al-Qiyas sahih. Ahsant. Quatrième argument, Al-Qiyas. L'analogie. Ils disent Al-Qiyas. Après, bien évidemment, il est question de Al-Qiyas qui remplit les conditions. Pas n'importe quel Al-Qiyas. Peut-être on va se limiter à ces quatre dans lesquels il n'y a pas de divergence. Les quatre arguments. Et il y en a encore 6 ou 7 autres dans lesquels il peut y avoir certaines divergences. Par exemple, l'avis d'un compagnon. Ça aussi, c'est un argument. Lakin, avec des conditions. L'sishab, l'sihsan, l'masalih, l'mursala. Tout ça, vous l'étudiez dans Usul al-Fiqh. Dans Usul al-Fiqh, vous étudiez 4 chapitres. 4 sujets. Le premier concerne les jugements. C'est quoi les jugements religieux. Les cinq jugements religieux, leur définition, pour comprendre ce que c'est un jugement. Et pour comprendre quand le savant te dit ça c'est haram, qu'est-ce que ça implique? Et ensuite, on étudie les arguments qui nous permettent d'arriver à ces jugements. Et ensuite, on étudie ce qu'on appelle dalalatul alfad, les sens des termes qui nous permettent de déduire ces jugements de ces arguments. Et en dernier, on étudie qui est l'homme de science habilité à le faire et qui n'est pas habilité à le faire. Comme ça, l'ignorant, il sait qu'il est ignorant, qu'il ne peut pas faire d'effort d'interprétation, et l'homme de science, il sait qu'il est habilité à le faire. Ça, c'est une science très, très importante. Il a dit, c'est pour ça, dans l'aqida en général, on parle de le Coran et de la sunna. Mais il faut savoir que sur tous ces points-là, il y a unanimité. Il y a aussi le consensus. Ma dalil al-hawd min al-kitab. Quelle est la preuve concernant le bassin tiré du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala? Qala Allah azza wa jalla li nabiyyihi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala a dit à son noble prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam: Inna a'tainaka al-kawthar. Nous t'avons accordé Al-Kawthar. C'est quoi Al-Kawthar? C'est le bassin. C'est le bassin. Donc les hommes de science sont unanimement d'accord sur l'affirmation de ce point de croyance qui est ce bassin qui sera accordé à notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a pas de divergence sur ce point-là. Taïb, là qui par contre, la divergence, quand on dit il n'y a pas de divergence, il n'y a pas de divergence entre Al-Sunnah et Al-Jama'a. Mu'tazila ne renie le bassin. Et par contre, les points dans lesquels il y a des divergences, est-ce que ce bassin est spécifique à notre prophète sallallahu alayhi wa sallam et à sa communauté? Le sens apparent des textes, c'est ça. Ça donne ce sens-là, comme a dit Cheikh Najmi rahimahullah. Lakin, il y a divergence sur ce point-là. Il y a des savants qui voient que chaque prophète aura son propre bassin pour sa communauté. Et le plus grand et le meilleur, c'est celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accordé à notre noble prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et que celui qui boit de ce bassin ne sera plus jamais assoiffé, n'aura plus jamais de soif. Ça, c'est de le Coran et de Sunna. Allah subhanahu wa ta'ala de Sunna, c'est-à-dire les arguments tirés de la Sunna du prophète alayhi salam, il y a plusieurs ahadiths concernant le bassin. Et même l'ensemble de ces ahadiths ont atteint le degré de tawatur. Dans la science du hadith, nous avons le hadith qui est authentique. Et le hadith qui est hasan, qui est bon, acceptable aussi. Les deux sont acceptés. Et nous avons le hadith qui est faible, qu'on n'accepte pas dans les jugements religieux. Il est nécessaire d'avoir un hadith authentique ou hasan. Les deux sont acceptables, mais le hadith authentique, c'est un degré plus élevé. Et ensuite, nous avons, en dessous de da'if, ou parmi ces catégories, nous avons ce qu'on appelle le mawdou', ce qui est un mensonge sur le prophète, alayhi sallam. Et celui-là, il n'est pas autorisé de l'attribuer au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, dans ce qui est authentique, le degré le plus élevé, c'est al-mutawatir, au point où ce hadith ne nécessite pas une étude de sa chaîne de transmission, parce qu'il est rapporté d'un très grand nombre de rapporteurs à toutes les générations de sa chaîne de transmission. Dans chaque génération, en commençant par la génération des compagnons, des suiveurs, jusqu'à celui qu'il a mentionné dans son ouvrage comme l'imam al-Bukhari, tu vas trouver que dans chaque génération, il y a énormément de rapporteurs qui l'ont rapporté. Et ce genre de hadith, c'est pas possible que ce soit un mensonge. C'est impossible qu'ils se mettent d'accord tous sur un mensonge, à toutes les générations. C'est ce qu'on appelle mutawatir. Et c'est pour ça que les fondements de l'aqida souvent sont prouvés et démontrés par des hadiths qui font partie de cette catégorie. Comme le cas du bassin. Parmi les hadiths qui ont été rapportés, la parole du prophète عليه الصلاة والسلام, Ana faratukum ala al-hawdi. Yani, le Nabi عليه الصلاة والسلام nous dit dans ce hadith qu'il va nous devancer sur le bassin. Il va arriver au bassin bien avant les membres de sa communauté. Et dans l'autre hadith, il a dit Inni faratul lakum wa ana shahidun alaykum wa inni wallahi la anzuru ila hawdi al-an. Nabi عليه الصلاة والسلام a dit, je vais vous devancer dans l'arrivée au bassin. Et je serai je témoignerai en votre faveur. Et par Allah, je vois mon bassin maintenant. À l'instant où il parlait, Allah subhanahu wa ta'ala lui a permis de voir le bassin qu'il lui a accordé. Rapporté dans les deux authentiques. Également, dans le hadith suivant, Nabi alayhi sallam dit Hawdi masiratu shahr. Dans ce hadith, il l'a décrit. Il a dit mon bassin, sa distance, sa longueur est équivalente à la marche d'un mois. Son eau est plus blanche que le lait. Et son parfum est meilleur que le musc. Et ses vers sont aussi nombreux que les étoiles du ciel. Les récipients qui sont posés pour que les gens boivent de ce bassin. Man shariba minhu fala yadhma'u abada. Celui qui en boit ne sera plus jamais assoiffé. Dans le hadith suivant, Nabi alayhi salam a dit Ataytu ala nahrin hafatahu qibabu al-lu'lu'il al-mujawwaf. Nabi alayhi salam a dit, j'ai vu un fleuve dont ses rives sont composées de coupoles de perles creuses. Faqultu, ma hada ya Jibril. J'ai dit, c'est quoi ceci au Jibril? Il a dit, hada al-kawthar. C'est al-kawthar. Donc, Nabi alayhi salam l'a vu lors de son ascension vers le ciel. La nuit dans laquelle il a fait l'ascension vers le ciel. Après son voyage nocturne de Mecca vers la Palestine. Et les hadiths à ce sujet sont très nombreux. Ensuite, il est passé à un autre point qui concerne le paradis et l'enfer. Le paradis et l'enfer, ce sont deux créatures. Vous avez constaté que tout ce qu'on est en train de voir, car je rappelle que quand on étudie la croyance islamique, en réalité, on étudie tout ce qui est en lien avec les six piliers de la foi. La foi en Allah, c'est ce qu'on appelle at-tawhid, la science du tawhid. Et ensuite, l'iman billahi wa malaikati, les anges, l'iman billahi wa malaikati wa kutubi, ses livres, ses messagers, et le jour dernier, et ensuite il va parler du sixième et dernier pilier de la foi, qui est la prédestinée, le destin. Donc là, rappelez-vous qu'on est en train de parler du cinquième pilier de la foi, qui est la foi au jour dernier. Et la définition du jour dernier, comme a dit Cheikh l'Islam Taymiyyah, c'est tout ce qui suit la mort. Tout ce qui suit ta propre mort fait partie du jour dernier. C'est pour ça qu'il est dit, il est rapporté, « Man mata faqad qamat qiyamatuhu. » Celui qui meurt, son jour dernier est arrivé. Donc ça fait partie de la foi en des choses de l'invisible que nous ne pouvons connaître que par la révélation. Le seul moyen de connaître ces choses-là. Donc, également, la foi au paradis et l'enfer. Le paradis et l'enfer. quelles sont les preuves les concernant? Il a cité dans la 129e question, Ma dalil al-iman bil jannati wan nar, il a cité plusieurs versets de Al-Qur'an al-Karim. Allah azza wa jalla dit: "Fattaqun nar allati waqoodaha an-nas wal hijara u'iddat lil kafirin wa bashshir alladhina amanu wa 'amilu s-salihati an lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar." Donc, dans le sens approximatif, Allah subhanahu wa ta'ala dit: et craignez le feu dont les hommes et les pierres seront le combustible et qui a été préparé pour les mécréants. Et ensuite il a dit, et annonce donc l'heureuse nouvelle à ceux qui croient et font œuvre de dévotion qu'ils auront des jardins sous lesquels coulent les rivières. Chaque fois qu'il leur en sera servi un fruit, ils diront: C'est ce qui nous a été servi auparavant. Or, ce qui leur a été servi était seulement ressemblant. Ils auront là des épouses purifiées et là, ils seront immortels. Et les versets dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala nous parle du paradis et de l'enfer dans le Coran sont très très nombreux. Quand on lit le Coran, vous constatez qu'il y a énormément de versets dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de ces deux points, car c'est parmi les quatre sciences les plus importantes. La science qui concerne l'au-delà et ce que Allah subhanahu wa ta'ala a réservé pour ses alliés et ce qu'il a réservé pour ses ennemis. Ça, c'est parmi les sciences qui motivent le croyant à œuvrer davantage pour Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, il faut savoir que ce qu'il y a dans le paradis, c'est ce que nul œil n'a vu. Ma la aynun ra'at, wa la udhunun sami'at. Est-ce qu'aucune oreille n'a entendu? Est-ce qu'aucun homme n'a pu s'imaginer? Tout ce qu'il y a dans le paradis, il n'a en commun avec ce qu'il y a dans le dunya que les noms. Lakin, Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné des jouissances et des plaisirs et des délices dans ce bas monde pour nous rapprocher ce qu'il y a dans le paradis. Mais en réalité, la réalité de ce qu'il y a dans le paradis, tu ne peux le savoir que quand tu es dedans. Qu'Allah ne nous prive pas de ses faveurs et de ses bienfaits. Également le châtiment de l'enfer, c'est pareil. Yani, certes, Nabi alayhi salam nous a décrit quelques châtiments de l'enfer. Déjà, le feu de l'enfer est 70 fois plus fort que tout le feu de ce bas monde. Si c'était comme le feu de ce bas monde, ça aurait suffi. C'est 70 fois. Et l'enfer, c'est pas un châtiment. C'est un monde de châtiments. Le feu les entoure de tous les côtés. Et ça, c'est ce que signifie Yaslaunaha, à chaque fois que tu la lis dans le Coran. Ça veut dire l'enfer, le feu les entoure de tous les côtés. Et c'est un monde de châtiments. Nasallallahu salam al-afiyah. Lakin, quand on pense à l'enfer, il faut savoir qu'il y a des gens qui vont rester pour l'éternité dans l'enfer. Car ils auraient commis la plus grande injustice, le plus grand crime, celui qu'Allah ne pardonne jamais après la mort. Lakin, même si le serviteur y commet ce péché pendant son vivant, du moment qu'il revient vers Allah, Allah il lui pardonne, il efface son péché, il le transforme en des bonnes actions. Lakin, malheur à celui qui meurt avec ce péché, qui est ash-shirku billah, qui est de vouer une adoration à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, comme invoquer autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, égorger pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et shirk, il est de deux catégories, majeur et mineur, et les deux sont très dangereux. Le mineur, c'est comme le fait de porter des talismans, d'accrocher la main de Fatma, en pensant que ça va nous protéger du mauvais œil. Et ainsi de suite. Comme le fait de jurer par autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Jurer par la Mecque. Jurer par le Kaaba. C'est pas autorisé. Celui qui veut jurer, il jure par Allah, sinon il se tait. Tayyib. Donc ça c'est le paradis et l'enfer. Le Nabi alayhi salam dans cette dua qu'il disait dans sa salat nocturne, avec laquelle il entamait sa salat nocturne, il disait « Walaka alhamdu, anta alhaqqu, wa wa'duka alhaqq. » Les louanges t'appartiennent à toi seul. « Anta alhaqqu. » Ici, regardez, ce qu'il dit c'est « Laka alhamdu. » C'est quoi l'ordre? L'ordre, ça c'est une phrase, déjà, ça c'est une phrase nominale ou verbale. En arabe, nous avons deux catégories de phrases. Jumla ismiya, jumla fi'liya. Laka alhamdu. Jumla ismiya ou fi'liya. C'est une phrase nominale ou verbale. Tfaddal ya Abu Bakr, ya sahib Misr. Aywa? Hein? J'ai pas entendu. Tfaddal ya Muslim.
Ismiya,
ahsant. Aina tabi'a al-hal. Dès que tu dis que c'est une phrase nominale, automatiquement tu te dis il est où le mubtada, il est où le khabar. C'est pas possible de trouver une jumla ismiya dans laquelle il n'y a pas un mubtada, un khabar. En français, on peut traduire par un sujet, un attribut. Et si c'est une phrase verbale, automatiquement, tu dois chercher le verbe et le sujet, celui qui accomplit l'action du verbe. Après, il peut y avoir un complément, il peut ne pas y avoir de complément. Lakin, ce qui est indispensable, ce sont ces quatre-là. On ne peut pas former une phrase en arabe sans qu'on ait deux de ces quatre. Deux noms, ou un verbe et un nom. Tayyib, il est où le mubtada? Le sujet, avec quoi on commence? Laka alhamdu. Tfaddal ya Muslim.
Laka.
Là, c'est pas possible que ce soit un mubtada. Tfaddal ya Qadir.
Alhamdu.
Alhamdu, c'est le mubtada. Le mubtada, c'est le plus connu. Il porte un al, c'est un ma'rifa. Donc forcément, c'est ça le mubtada. Tu ne peux pas informer d'une chose inconnue en arabe. Je ne peux pas dire Rajulun Yamshi. Un homme qui marche. Si je veux décrire quelqu'un, il faut qu'il soit connu. On ne décrit pas un inconnu. Rajulun Yamshi. Donc, Alhamdu, c'est le Mubtada. Et le Khabar, c'est Laka, pour simplifier. Yani, l'hamdo, qu'est-ce qu'il a l'hamd? Appartient à Allah. C'est ça la tribu. Tayyib, regardez l'ordre normal dans une phrase, c'est le mubtada d'abord et après le khabar. N'est-ce pas? Lakin ici, c'est inversé. Pour donner un sens qui est le sens. Tfaddal ya Abdullah. Là. Tfaddal ya. Non. تفضل يا جديد
الحصر والتخصيص
الحصر احسنت l'exclusivité يعني الحمد شوف regardez en arabe on a inversé juste l'ordre en arabe il comprend que les louanges t'appartiennent à toi seulement et exclusivement c'est la même chose quand on dit iyyaka na'budu mais ici c'est une phrase verbale normalement, en dehors du Coran, on aurait dit « Na'budu Allah ». Mais quand on a inversé, c'est pour donner le sens de l'exclusivité. C'est-à-dire, quand tu dis « Iyaka na'bud », c'est comme si tu disais « La ilaha illallah ». C'est le même sens. tu n'adores que Allah exclusivement. C'est pas tu l'adores et tu t'adores avec lui autre chose. Donc rien qu'en inversant, ça donne ce sens-là et c'est magnifique en langue arabe. La langue arabe, ça a été choisi comme la langue yani, du monde. C'est la seule langue qui est restée préservée. Et elle n'est pas restée préservée à cause de nos dialectes. Elle est restée préservée à cause du Coran. Allah subhanahu wa ta'ala a préservé cette langue. Vous imaginez, quoi ? Vous pouvez apprendre à parler la même langue que parlait le prophète, il y a 15 siècles. Et que parlait Abu Bakr Siddiq. C'est pas possible en français. De parler déjà le français de Victor Hugo, c'est pas possible. Alors que dire de plus anciens ? Leurs langues ne sont pas préservées. Elles changent en permanence. La langue arabe, elle est préservée. Et la préserver fait partie de la préservation de le Coran. Ça sert à quoi d'avoir un livre que nous ne comprenons pas ? Faut pouvoir le comprendre comme il a été compris par le prophète A.S. Et ça, c'est toujours possible. Et ça restera toujours possible. Donc, Laka alhamdo, anta alhaqo, t'es la vérité. Allah, il est la vérité. La vérité absolue. Et celui qui est adoré en toute vérité. Et tout ce qui est adoré en dehors de lui, son adoration est caduque. Wa wa'aduka alhaq, sa promesse est vérité. Wa liqa'uka haq, sa rencontre est une vérité. La résurrection après la mort. Allah nous donne des signes de la résurrection après la mort. Dans cette vie, vous pouvez les voir. Une terre aride, une terre morte. Allah fait descendre la pluie, les plantes poussent. Ça, c'est des exemples pour nous montrer que celui qui a redonné la vie à ses créatures est capable de redonner la vie à ses hommes et à ses djinns pour les juger par la suite. وَقَوْلُكَ حَقٌ La parole d'Allah est vérité. Tout ce que Allah dit, c'est la vérité. C'est la vérité absolue. C'est pour ça, Yahya, il y a une règle très importante, surtout quand on a très peu de connaissances au sujet de l'islam, ce qui est le cas de la plupart des musulmans aujourd'hui. Ils ne connaissent que très peu leur religion, malheureusement. C'est pour ça qu'ils sont dans cet état dans lequel ils sont aujourd'hui. Parmi les règles importantes, c'est de savoir que ce qui est rapporté dans ta religion, que ce qui fait partie certainement de ta religion, la première question, c'est de vérifier que ça fait partie de la religion. Il n'y en a pas tout ce que les gens attribuent à la religion fait partie de la religion. Lakin, du moment que tu as vérifié que cette chose fait partie de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, il faut que tu saches automatiquement, sans avoir le moindre doute, que c'est ça la vérité. Et si tu as raison, te dis que ça c'est pas bon, ou te dis autre chose que cette vérité, alors il faut que tu accuses ta façon de voir, ta façon de comprendre. Il faut que tu accuses peut-être l'environnement dans lequel tu as grandi, qui t'a donné des mauvaises valeurs. Lakin, les vraies valeurs, c'est les valeurs de l'islam. Ce sont celles-là les valeurs universelles. C'est la vérité absolue. Et ça, tu peux l'appliquer dans plusieurs domaines. Il y a des choses que les gens aujourd'hui voient comme un mal. Par exemple, une femme qui se couvre. Une femme qui préserve sa chasteté. Ou un homme qui préserve sa chasteté. Lakin, la vérité, c'est ce qui est dans notre religion. Des gens qui peuvent voir comme un bien de boire de l'alcool. Et après, ils peuvent l'embellir de certaines manières. Oui, il faut consommer avec modération. Lakin, la vérité, c'est l'interdiction absolue. C'est ça la vérité. Et après, tu vas trouver des koufars qui sont d'accord avec ce qui est dans la religion de l'islam. Lakin, ceux en général qui disent que l'alcool c'est bien avec modération, c'est les producteurs et ceux qui ont les vignobles ou des médecins qui font des opérations sur les poumons, le foie. Avec modération. Peut-être lui, il ne le boit pas. L'alcool, c'est un poison. Scientifiquement, c'est prouvé que c'est un poison. Dès que tu le rentres dans ton cœur, dans ton corps, en toute petite quantité, le corps, il est dans une alerte immense. Il y a un poison, il faut qu'il te débarrasse de ce poison avant qu'il n'arrive à ton cerveau. Et regardez ce que les médecins disent par rapport à l'alcool, dans des documentaires ou scientifiques. Et vous allez voir qu'il n'y a pas de consommation avec modération. Est-ce qu'il y a un alcoolique qui a commencé l'alcool en voulant devenir un alcoolique? Ils ont tous commencé avec modération. Et ça, tu peux le dire par rapport à tout ce que Allah t'interdit. Allah, il ne t'interdit pas pour t'interdire. Il t'interdit pour te préserver et te protéger, pour ton bien. Allah n'a aucun profit dans ce qu'il t'interdit. Le profit, c'est pour toi, car c'est lui qui t'a créé. Il sait ce qui est meilleur pour toi. Subhanahu wa ta'ala. Également dans ce qu'il t'a prescrit. C'est pour ton bien. Imaginez, Aïkhoa, si on n'avait pas 5 salawat par jour. Est-ce que vous vous rendez compte de la ni'ma immense de devoir faire obligatoirement 5 salawat par jour, répartis sur toute la journée, du début jusqu'à la tombée de la nuit, où tu es obligé, malgré toi, d'être en contact avec ton Créateur. Imagine s'il n'y avait pas de cette salat. Déjà avec Had les salawat, on voit qu'il y a des muslimines, qu'Allah nous pardonne et leur pardonne, à cause de leur négligence, ils vont rester dans leur commerce, dans leurs affaires, et ils ne vont pas se rappeler Allah sur toute une journée. C'est une ni'ma immense qu'Allah nous a prescrit ces salawat. Pour notre bien, pour être au minimum dans une journée en lien avec notre Créateur pendant ces moments-là, ces moments d'apaisement et de quiétude et de sérénité, ces moments où on laisse dunya derrière nous et on se dirige vers Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qawluka haqqun wal jannatu haqq. Et le paradis est une vérité. وَالنَّارُ حَقٌّ et l'enfer est une vérité. وَالنَّبِيُّونَ حَقٌّ et les prophètes sont vérité. وَمُحَمَّدٌ حَقٌّ et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est un prophète de vérité. وَالسَّاعَةُ حَقٌّ et l'heure de la fin des temps est une vérité. Tout ça c'est des vérités. Et ensuite il a cité un autre hadith rapporté dans les deux authentiques. Ce hadith, les savants, comme a dit Nawawi rahimahullah, c'est un hadith qui comporte la croyance islamique d'une manière globale. Rien que ce hadith. Il n'est pas long. C'est le hadith suivant, dans lequel le Nabi alayhi sallam a dit « Man shahida an la ilaha illallah ». Donc ça, ce hadith peut servir d'épître de croyance. C'est un matn dans l'aqidah. Si on le détaille, tu vas étudier la plupart des questions de l'aqidah. Man shahida an la ilaha illallah, celui qui atteste qu'il n'y a de vraie divinité excepté Allah subhanahu wa ta'ala, la seule vraie divinité. Les divinités sont nombreuses sur terre, mais le seul qui mérite l'adoration, la seule vraie divinité, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et on ne dit pas d'Allah Dieu, sauf si on parle avec un français ou quelqu'un qui ne comprend pas, pour lui faciliter la compréhension. Lakin Dieu ne fait pas partie des noms d'Allah. Vous savez que c'est un domaine dans lequel on ne peut pas inventer des noms. On attribue à Allah uniquement les noms qu'il s'est attribué lui-même, dans le Coran et dans la Sunna authentique. La divinité, c'est un attribut. Man shahida an la ilaha illallah, wahdahu la sharika la. Seul, sans aucun associé. Ça, c'est une affirmation d'essence qui sont déjà contenues dans la parole la ilaha illallah. La ilaha illallah, ça veut dire qu'il est unique. La sharika la, il est unique. Affirmation après affirmation. Pour l'importance de ces sens-là. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le serviteur et le messager d'Allah. C'est les deux qui te permettent d'être dans le juste milieu, dans la voie droite, de croire qu'il est le serviteur d'Allah. Donc ce n'est pas une divinité. Tu ne vas pas l'invoquer. Tu ne vas pas espérer qu'il te sauve du châtiment d'Allah. Il n'y a que Allah qui peut te sauver. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne peut pas sauver sa propre fille, ne peut pas sauver ses propres parents. C'est une créature d'Allah. Certes, il a un statut élevé, le plus élevé de toutes les créatures auprès d'Allah. Lakin, ça reste une créature, un serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il te montre comment adorer Allah, comme Allah lui a enseigné. Lakin, tu ne peux en aucun cas l'adorer. C'est pour ça qu'il est abd. Il n'est pas ma'boud. Lui-même, c'est un abd. Lui-même, il adore Allah. Comment t'adore celui qui adore Allah? Et naam. Surtout chez les soufis, il y a énormément qui vouent des adorations au prophète, alayhi salatu wassalam, qu'il invoque, qu'il implore, et ainsi de suite. Donc, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est un serviteur, esclave d'Allah, serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui adore Allah, et qu'on adore en aucun cas. Yani l'adoration, vous comprenez, yani dans le sens l'ibada, la dévotion et la soumission, amma, adorer dans le sens aimer, comme ça se dit en français, adanam. Bien évidemment, son amour est une des plus grandes obligations de la religion de l'islam. Même, on doit l'aimer plus que notre amour pour toute autre personne. Nos parents, nos enfants et tous les membres de notre famille. Mais malgré ça, on l'aime en Allah. Le seul qui est aimé pour lui-même, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète, on l'aime parce que c'est le messager d'Allah, l'élu d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il l'a choisi. Et Allah l'aime. Il est l'homme qu'Allah aime le plus. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tayyib. Et attention, tout ce qu'on dit comme éloge vis-à-vis de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, déjà on les dit par rapport aux textes qui sont rapportés authentiquement. Et sans que ça comporte une diminution à l'égard d'un autre prophète au message. Car ils sont égaux au niveau de la prophétie et de la transmission du message d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lakin, ils ne sont pas égaux dans leur degré auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tilka ar-rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Mais par rapport au message et la prophétie, la transmission du message d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils sont tous égaux. Tayyib. Anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Il est son messager. Et ça, c'est son droit. C'est de n'adorer Allah qu'avec ce qu'il a légiféré. Car c'est lui le messager. C'est lui qui a reçu la révélation. Et pas ma tribu, ni mes ancêtres qui ont reçu la révélation. C'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça que tu dois adorer Allah uniquement avec ce que son prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné. Wa anna Isa abdullahi wa rasuluh. Et que Isa est le serviteur et le messager d'Allah. Et ça, ça comporte une réfutation des juifs et des chrétiens, à la fois. Isa Abdullah, c'est une réfutation de qui? Tfadal ya akhi jadid. J'ai pas entendu, lakin, je pense que tu as dit les chrétiens. Et Rasuluhu, c'est une réfutation de qui? Tfadal, aywa, al-Yahoud, les Juifs. Regardez, avec une phrase, la réfutation de deux parmi les plus grands égarements qui existent sur Terre. Ceux qui ont dit que la vraie divinité, ce sont trois divinités. Et ceux qui ont mécru en Jésus, alayhi salam. Et ils ont dit, c'est pas un messager, c'est pas un prophète. وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمْ. Et qu'il est, la parole d'Allah, Isa alayhi salam, il est la parole d'Allah. C'est-à-dire qu'il est créé avec la parole d'Allah. Yani, ça, c'est pas spécifique à Isa. Mais le spécifier ici, c'est pour montrer son mérite. Comme quand on dit Baytullah. Toute chose appartient à Allah. Lakin, pourquoi Allah s'est attribué la mosquée, c'est pour montrer son mérite et son statut élevé auprès de lui. طيب دقيقة شوي. طيب، وكلمته ألقاها إلى مريم، يعني عيسى اللي كخي avec la parole d'Allah سبحانه وتعالى،
avec sa parole qu'il a adressée à Maryam. Il a créé avec sa parole. Il a dit كن فيكون. Soit et il est.
وروح منه. Et une âme provenant de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Une âme qu'Allah a créée. Allah se l'est attribuée pour montrer son mérite et son statut élevé auprès de lui. طيب. والجنه حق, le paradis est une vérité et l'enfer est une vérité. Celui qui croit en tout ça, et ça bien évidemment, ça peut être détaillé en plusieurs séances. Celui qui croit en tous ces points, Allah subhanahu wa ta'ala lui a promis de le faire entrer au paradis, quelles que soient ses œuvres. Quelles que soient ses œuvres, même s'il a très peu d'œuvres. Dernier, les œuvres du bien. Même s'il a peu de bonnes actions. Lakin, bien évidemment, celui qui croit en tout ça, ça veut dire il a tawhid, il a le suivi du prophète alayhi salam. Et il croit, il a la bonne croyance par rapport aux prophètes et messagers, les piliers de la foi. Il fait les piliers de l'islam. Et il croit en l'au-delà, le paradis, l'enfer, celui qui a tout ça. Quelles que soient ses bonnes œuvres, Allah lui a promis de le faire entrer au paradis. Est-ce que dans ce hadith, Allah lui a promis de le faire entrer directement au paradis? Là. Mais Allah lui a promis de le faire entrer au paradis. C'est une certitude qu'il va aller au paradis. Pourquoi ? Parce que c'est un mouahid. Et tout mouahid finira forcément au paradis. Quand bien même il est châtié avant. Pour être purifié de ses péchés. Donc Allah lui a promis une entrée au paradis, mais pas forcément une entrée directe. Il faut faire la différence entre l'entrée directe et l'entrée après un passage de purification. Et la purification peut se faire avec les épreuves dans ce bas monde, comme la perte de proches ou d'être touché par des catastrophes. Ça peut être les péchés peuvent être purifiés par les épreuves de la tombe et les supplices de la tombe, sinon par la station et l'attente dans l'au-delà. Sinon, par le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et sinon, la dernière chose qui purifie, c'est le feu de l'enfer. Nas'alullah salam al-afiyah, qu'Allah nous en préserve tous. Voilà, ikhwa, pour aujourd'hui. Malheureusement, on a commencé très très tard. Quand vous avez commencé, c'était l'heure de salat chez vous. Vous avez terminé votre salat. Naam ? Vous avez perdu un petit peu de temps avant. طيب. ها؟ نعم. طيب. On essaiera la semaine prochaine de commencer le plus tôt possible, بإذن الله, pour profiter un petit peu plus. طيب. Si vous avez une question avant l'Iqama, مرحبا. والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.